Emmanuel Bove est né à Paris en 1898. Il y est mort en 1945, à l'âge de 47 ans. À 23 ans, il écrit son premier roman, Mes amis. 3 ans plus tard, Armand vient confirmer les dons particuliers du romancier pour l'observation psychologique et sa finesse à débusquer les tensions et les rivalités sous la moindre parole, dans le moindre geste, sans recherche narrative visible.
Armand, d'Emmanuel Bove. Texte dit par Olivier Broche, 8e épisode.
1925. Armand s'est sorti de la misère grâce à la générosité de sa maîtresse, Jeanne, chez laquelle il vit depuis un an. C'est alors qu'il retrouve par hasard Lucien, un ami de régiment et vieux compagnon d'infortune. C'est chez Lucien qu'il rencontre Marguerite, sa sœur, jeune fille craintive et candide. Un soir, sans vraiment savoir pourquoi, Armand embrasse Marguerite. Le lendemain, assailli par les regrets et la peur d'être trahi par Lucien auprès de sa maîtresse, il se précipite chez Lucien pour s'expliquer. Leur conversation est difficile. Lucien se montre agressif et fermé. Quand Armand rentre chez lui, Jeanne l'attend, impassible. Elle est maintenant adossée à la fenêtre du salon.
C'est vrai ce que m'a dit Lucien ? Je ne répondis pas. Peut-être faisait-elle allusion à quelque chose d'autre. Réponds-moi. J'osais fixer mon regard dans ses prunelles, de l'une à l'autre, sans pouvoir l'immobiliser. Une table d'acajou nous séparait. Des pensées sans suite traversèrent mon esprit. Je vis l'image de Jeanne reflétée sur la table, plus nette que la mienne dans un rectangle sans poussière où s'était trouvé un livre. Je vis la trappe de la cheminée, à laquelle manquait un volant, le feutre de la table de jeu, décollé à l'endroit où elle se plie, les pédales du piano, la vis du tabouret, les butoirs qui protègent les boiseries des portes, le tapis sous lequel le parquet n'était pas ciré. Jeanne continua de parler, je ne vis plus qu'elle, que son visage dans ses plus petits détails. La minceur des lèvres serrées, la fixité du regard lui donnait une expression que je ne lui connaissais pas, aussi nouvelle pour moi que si, pour la première fois, nous nous fussions trouvés ensemble devant un mort. Dans le cerne de l'un de ses yeux, il y avait une tache qui rougissait après les repas. J'avais la même tache à la base du nez. Elles étaient toutes deux sans doute causées par la rupture, sous la peau, d'un vaisseau sanguin. C'était un des signes communs qui avait fait que nous nous étions plus. À force de tenir sa tête dans ses mains, elle avait dégagé ses oreilles des cheveux qui les masquaient. Plus foncée, elle semblait bien portante à côté de la pâleur du visage. Elle fit une grimace. Sa lèvre inférieure cacha l'autre. Ses cils, comme si elle avait pleuré, étaient clairsemés. La chair était à vif au coin de ses yeux. Une ride de la quarantaine, partie des joues, passa sous son menton. Armand, ce que tu as fait n'est pas bien. J'avais confiance en toi. Je pensais que tu m'aimais un peu. Ce n'est pas bien. Tu ne sais pas comme j'ai souffert depuis que j'ai tout appris. Elle parlait en fixant son regard dans mes yeux, exagérant sa fixité pour que je comprisse qu'elle voulait lire en moi. Ainsi qu'en face d'un spirit, je pensais à une idiotie impossible à deviner. Je sais à quoi tu penses. Tu te dis qu'elle est ennuyeuse, cette femme. Je le devine dans tes yeux. Eh bien, cela ne m'empêchera pas de te parler comme tu le mérites. Entends-tu, Armand ? Elle s'interrompit pour attendre une réponse. Je n'osais entrouvrir les lèvres, ni respirer bruyamment, ni même faire un geste de peur que, pensant que j'allais parler, un silence ne lui causât une trop grande désillusion. J'étais pâle. Je l'écoutais en m'imposant de la regarder, en m'imposant surtout de ne pas baisser les yeux. Mais mes paupières ne tardent pas à me piquer. C'était toujours moi qui le premier détournais la tête, sans quoi j'eusse cligné les yeux et elle eût cru que je me moquais d'elle. L'horloge ne sonna heureusement que la demi. Un bruit trop long nous eût obligés à l'écouter ensemble. Malgré moi, je regardais la pendule. Une heure avait passé sans que je m'en fusse aperçu. on eût dit que les aiguilles avaient sauté l'espace que cette heure occupait sur le cadran. Soudain, Jeanne se dirigea vers la chambre à coucher, sans se retourner, avec la précipitation d'une femme qui va pleurer. Je restai seul dans le salon où le lustre, les chaises étaient pour plusieurs. Je m'assis dans le fauteuil de Jeanne parce que derrière lui, il n'y avait aucun meuble, aucun mur, parce que j'aime à pouvoir reculer lorsque je croise les jambes. Que personne ne me comprît me plongeait dans une grande tristesse. Je n'avais rien fait de mal. Ce n'était pas tromper une femme que d'embrasser une pauvre enfant, seule au monde. Pourtant, je ne me sentais pas la force de convaincre Jeanne. Il m'apparut que tout ce qui me disculperait ne changerait rien à son opinion. À force d'avoir été soupçonné, méprisé, je ne croyais plus à la possibilité de me défendre par des mots. Les objections se heurtaient dans mon esprit, aussi logiques, aussi profondes que les excuses à mon acte. Seule l'occasion immédiate de faire une grande chose pouvait me sauver. Je voulus alors me replier sur moi-même, découvrir l'énergie de reprendre goût à la vie. Jusqu'à présent, chaque fois que j'avais été malheureux, je trouvais dans l'injustice un réconfort. Le temps m'apparaissait devoir diviser en parts égales le bien et le mal. Mais j'avais trop usé du sentiment d'être une victime. Il s'était émoussé. J'eus beau exagérer l'injustice dont je souffrais, je demeurais abattu, sans que le moindre espoir né de la douleur vînt me ranimer. L'humilité n'était plus féconde. Les hommes avaient raison contre moi. Je n'étais pas digne d'être aimé ni secouru. Pour la première fois de ma vie, j'eus conscience qu'aucun être sur terre ne daignerait avoir pitié de moi. Je fermai les yeux avec l'espoir que dans l'obscurité je changerais, que ma détresse n'était que passagère. Mais j'avais les yeux ouverts derrière les paupières. La lumière jaune qui les traversait, très faible, me rappelait que le lustre était encore allumé. À cause de ce même désir qui me fait mordre les biscuits entiers de manière qu'il me révèle le demi-cercle de mes dents, je fermai les mains avec force pour que mes ongles laissassent une empreinte sur ma chair. J'ouvris les yeux. Les lumières du salon avaient les mêmes rayons de la même longueur. Sur les meubles, les mêmes reflets n'avaient pas bougé. J'eus l'impression que la lumière était aussi indépendante de moi que celle du jour, que le commutateur ne se trouvait pas dans la chambre ni dans la maison, que si j'eusse voulu éteindre, je n'aurais pu le faire. Les portes étaient fermées. J'entendais dans la cheminée plus proche de sa chambre que les murs, Jeanne qui se déshabillait. Les bruits, eux aussi, étaient les mêmes, comme si rien n'était arrivé. Puis je l'entendis se coucher. Je ne savais si elle avait éteint. Quoi que cela n'eût en soi aucune importance, je me levai, m'approchai de la porte de sa chambre de manière que mon ombre la couvrit afin que les bords de l'embrasure, s'ils étaient lumineux, m'apparussent plus nettement. Ils étaient sombres, elle avait éteint. Alors je sentis, plus qu'au moment où elle m'avait parlé, combien maintenant nous étions éloignés l'un de l'autre. Malgré ce que j'avais fait, la lumière la gênait pour dormir. Déjà, elle avait pris son parti de rester seule avec des habitudes pour deux. Je me rassis. Ce ne fut que longtemps après, quand je supposais qu'elle s'était endormie, que j'entrai dans la chambre à coucher. Je me déshabillai sans bruit de manière que Jeanne, même si elle était éveillée, ne m'entendît pas. Les volets n'étaient pas tirés. Je posai mes souliers sur le tapis, la pointe d'abord. Je mis mes vêtements sur une chaise, avec précaution, pour que leur poids ne la fît pas basculer, en faisant attention que des objets ne tombassent pas de mes poches, que des boutons qui eussent pu, au milieu de tant d'étoffes, se trouver à des endroits auxquels je ne pensais pas, ne heurtassent point le dossier. Soudain, fatigué d'être silencieux et parce que cela me soulagerait sans faire de bruit, je lançai mes chaussettes au hasard devant moi. Traînant les pieds de façon à pousser et non à écraser ce qui gisait sur le sol, je m'approchai de Jeanne à tâtons, les yeux baissés pour qu'elle ne les vît pas luire, promenant en éventail une main devant moi pour qu'au cas où une porte eût été ouverte, elle ne m'échappât point. Mes doigts glissèrent sur le bois du lit, comme le long d'une rampe, lentement, afin de ne pas s'écorcher aux sculptures des coins. À côté de la table de nuit qui bouge parce qu'elle a toujours un pied sur la descente de lit, je m'arrêtai. Chaque soir, je plaçais le bouton de mon col sur cette table. À cause de cette habitude, petite comme lui, je le tenais dans ma main, sans penser. Jeanne était allongée contre le mur. J'hésitais à me glisser entre les draps de peur que mes articulations ne craquassent. À la fin, je me penchai, levai une jambe de façon que le poids de mon corps reposât jusqu'au dernier moment sur le sol, me tenant bien en équilibre parce que le pied qui me portait était nu. Lorsque je fus à demi allongé, je ramenai l'autre jambe, la tendant d'avance pour n'avoir pas à le faire dans le lit. Puis j'avançai mes pieds sous les couvertures parce que je ne peux pas dormir quand ils sont en dehors du lit. J'étais couché, Jeanne, si elle dormait, n'avait rien entendu. J'aime à marcher, à agir silencieusement. Dans les mois qui précédèrent, j'avais souvent pris plaisir à m'approcher de Jeanne sur la pointe du pied, sans qu'elle s'en doutât, pour lui faire peur. La chambre était obscure. En écoutant Jeanne vivre, je devinais qu'elle était éveillée. J'entendais d'une seule oreille, parce que je reposais sur l'autre, le battement de ses yeux, son souffle. Au bruit de sa langue, je savais si elle avait la bouche ouverte ou fermée. Accoutumé que j'étais à ces bruits à peine perceptibles, il me sembla qu'elle se levait, qu'elle allait partir, quand simplement elle remua. Peu à peu, mes yeux s'étaient habitués à l'obscurité. Je vis le drap qu'elle avait ramené elle seule par-dessus son épaule, mais sous lequel l'air passait quand même. Je vis ses cheveux qui venaient jusqu'à mon oreiller, sans qu'elle le sût, comme un enfant au bord de l'eau quand sa mère coud. Elle poussa un soupir sans qu'un bruit de respiration lui précédait. Aussi farouche avais-je été au moment où elle m'avait parlé durement, aussi bon me sentais-je devenir à présent qu'elle souffrait en silence. Entre nos deux corps, les couvertures retombaient. Elle se tenait toute droite, sur le côté, la chemise tirée jusqu'au genou, redoutant même le contact pourtant peu sensible de mes pieds contre les siens. Je l'entendis glisser sa main sous l'oreiller. Soudain, elle se cacha le visage. Elle devait pleurer. Je ne trouvais aucun mot pour la consoler. Elle pleurait immobile. J'étais ému au point que j'eusse voulu la serrer contre moi, l'embrasser. Mais elle n'avait pas encore dormi. Les pensées qui traversaient en ce moment son esprit étaient enchaînées à celles de tout à l'heure. Je résolus d'attendre qu'elle se fût assoupie pour la surprendre, l'âme neuve dans un réveil. Je ne savais si le temps s'écoulait vite ou lentement. Bien que j'eusse fermé les yeux, j'étais aussi éveillé que s'ils avaient été ouverts. J'aurais aimé à somnoler comme dans les nuits de garde, assez pour rêver, pas trop pour se lever au moindre bruit. Parce que la tête me tournait quand je ne pensais pas, je m'efforçais de suivre des souvenirs, le premier qui se présentait. Arrivé à sa fin, j'ouvrais les yeux. J'étais alors tout petit dans la chambre, longue et haute, loin, très loin de la fenêtre à peine plus claire que les murs. Afin de ne pas tendre la main en l'air où elle eût pu rencontrer celle de Jeanne, je la glissai vers le bord du matelas jusqu'à la barre froide et solide du sommier métallique dont le contact me ranimait. Longtemps, je passai ainsi d'un souvenir à un autre. Puis doucement, comme quand je parle seul, j'appelai. « Jeanne !» Elle ne répondit pas. « Jeanne !» répétai-je sans élever la voix, car elle m'entendait certainement. Ce nom, qui avait volé de mon oreiller au sien, nous unissait. Il résonnait dans l'obscurité après avoir été prononcé. Je le sentais dans ma bouche comme si ma langue avait gardé la forme qu'elle avait prise pour articuler sa dernière syllabe. Il effaçait toute autre pensée. Pourtant, aucun mouvement, aucune parole ne l'accueillirent. Le silence et la nuit bourdonnaient à mes oreilles. J'attendis un instant, puis, avec la même douceur, je murmurai de nouveau « Jeanne !» Cette fois, elle remua. Mais ce fut pour mieux se couvrir, comme si j'avais seulement éveillé en elle son instinct. Je ne pus me contenir davantage. « Pardonne-moi, Jeanne. Je ne savais pas que c'était si grave. Je te demande pardon. » Ma voix trembla au début. Mais de parler ainsi, sans geste, à Jeanne qui me tournait le dos, fit que mes paroles perdaient de leur sincérité à mesure que je les prononçais. Je continuais pourtant. « Je t'en supplie, Jeanne, oublie tout. Tu sais bien que je suis incapable de faire le mal. » Elle leva la tête, ce qui, durant une seconde, parce qu'elle était couchée, parce que ses bras allongeaient son corps, me parut grotesque à cause du souvenir de ces gens qui bougent quand ils font le mort. « Je ne t'écoute pas, Armand. » Ces mots me glacèrent. Bien que je sache que l'on ne commande pas à ses oreilles, que si j'avais parlé, elle eût entendu ma voix même contre son gré, je me tus. Tout était fini. Mon bonheur ne dépendait plus de moi. Une grande détresse m'envahit. Je ne pouvais être plus doux, plus tendre que je venais de me le montrer. J'allais pleurer. Ma salive devint abondante, mes yeux s'humectèrent. Parce que j'étais couché, parce que la peau des tempes est plus sensible que celle des joues, mes larmes me semblèrent plus abondantes que lorsque je pleure debout. Je ne voulais pas que Jeanne m'entendît. Je pleurais en silence, me déplaçant chaque fois qu'un endroit de l'oreiller était mouillé. Je n'avais plus de force. Un engourdissement, coupé plusieurs fois par des sursauts parce que je rêve toujours avant de m'endormir que je trébuche contre une pierre, m'envahit. Je commençais à me sentir bien. Tout était pour le mieux. Je me laissais aller. Je pouvais dormir si je le voulais. Au milieu de la nuit, j'ouvris les yeux aussi simplement que si je n'avais pas dormi. Il était peut-être 2 heures du matin. Les larmes avaient séché sur mes pommettes. Mes yeux me semblaient avoir grandi. Ils se trouvaient, bleus et bien ouverts, au milieu de mon visage. À une horloge lointaine, j'entendis sonner un coup. On était à ce moment de la nuit où il est impossible d'apprendre l'heure par les sonneries des horloges, car les heures, les demi et les quarts se confondent. Jeanne dormait sans doute. J'entendis sa respiration régulière. Cette fois autour de nous, c'était la vraie nuit où la moindre lumière n'est pas le prolongement du jour et a été éteinte au moins une fois, où les habits sont noirs, lourds, oubliés. Dans un élan de tendresse, je m'approchai de Jeanne, cherchai sa bouche, l'embrassai longuement. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Elle s'abandonnait. Elle avait oublié. Nous nous aimions comme par le passé. Elle me pardonnait lorsque, subitement, se rappelant tout, elle me repoussa. Alors que la journée se divise en tant d'instants, ce fut à 7 heures juste que je m'éveillai. Il ne faisait pas encore grand jour. Jeanne dormait. Son corps était imprimé d'un mouvement régulier, apparent à l'épaule. Je me souvins de tout et, immédiatement, je ressentis une oppression dont je ne pus me défendre, immobile et couché. Une longue journée commençait pour moi seul. Elle était toute proche de la veille. Mon sommeil avait été trop court pour que j'eusse changé. J'avais reposé 3 heures en comptant le temps pour m'endormir. Moi qui, au matin, suis confiant, j'étais aussi désemparé qu'au milieu de la nuit. Je n'osais remuer, bien que, lorsque je m'éveille de bonne heure, je me tourne pour que la pensée que je viens de me coucher m'aide à me rendormir. Je sentais que dès que Jeanne ouvrirait les yeux, il se passerait quelque chose de décisif. Sa tête avait glissé de l'oreiller qui, seul, semblait faire partie d'un lit vide. Ainsi, dans cette pause où il y avait de la grâce, on eût dit qu'elle m'aimait encore, que rien ne s'était passé, qu'elle s'éveillerait en souriant, que les paroles qu'elle avait prononcées avaient peu d'importance à côté de la réalité de son abandon. La lumière du matin gagnait, en haut des murs, les reproductions libertines que nous regardions le soir. Tout semblait étranger. Les chaises que l'on déplace avaient la même immobilité que l'armoire. Mes souliers, sur le sol, m'apparurent comme ceux d'un vagabond dans un fossé. Des objets que je ne reconnaissais pas m'intriguaient. À la couleur fraîche des carreaux, je devinais que le ciel était bleu, qu'il le resterait toute la journée, que le soleil s'était déjà levé, que de l'horizon il dorait les façades donnant sur le levant. Maintenant, Jeanne me faisait face. Ses mains, sa bouche, ses yeux étaient fermés. Par moments, pour mieux respirer, elle cherchait l'air comme une odeur. Ses paupières minces étaient sillonnées de veines bleues, comme si les yeux eussent été trop grands pour elle. Mon souffle caressait son visage. Je détournais la tête pour qu'il ne l'éveillât pas. De temps en temps, elle respirait plus vite, comme si elle allait s'éveiller, ou bien elle semblait avaler quelque chose. Je redoutais alors qu'elle n'ouvrît les yeux, car j'ai toujours cru qu'en dormant, l'on ne pouvait commander à sa gorge. Sans qu'aucun geste ne m'eût prévenu, ses paupières se levèrent soudain. Deux yeux me regardèrent. Leurs pupilles, comme celles des chats, étaient plus grandes parce qu'il faisait encore sombre. Elles ne bougeaient pas. On eût dit que les paupières les recouvraient encore. Parce que ses yeux étaient fixes, il m'apparut qu'il ne distinguait que les choses immobiles, que mes mouvements leur échappaient. Je pensais alors à prendre Jeanne dans mes bras. Elle avait dormi. Au matin, ma faute lui apparaissait peut-être moins grave. Comme la nuit, je murmurais d'abord « Jeanne ». Elle entr'ouvrit la bouche pour que je comprisse que c'était parce qu'elle le voulait bien qu'elle ne me répondait pas. Je continuais. « Tu m'en veux encore ?» Elle s'accouda sur le milieu de l'oreiller, regarda derrière son bras en faisant tourner la chair. « Non, Armand, pourquoi t'en voudrais-je ? C'est fini entre nous. » Cette parole, parce qu'elle était la première que Jeanne prononçait, m'apparut comme le reflet exact de sa pensée. Je compris qu'elle avait pris une décision avant de s'endormir et que, puisque les heures de sommeil ne l'avaient pas affaiblie, il n'y avait plus rien à espérer. Au contraire, à mesure que le temps passerait, elle s'éloignerait plus encore de moi. J'étais seul. C'était irrémédiable, au point que nulle émotion ne m'envahit. J'étais calme. Elle s'était assise sur le lit. Bien qu'elle dût être émue, elle tendait les bras pour tâcher de toucher, sans plier les jambes, la pointe de ses pieds. Puis, se tournant subitement vers moi, elle me demanda de me lever afin de n'avoir pas à passer sur moi pour sortir du lit. J'obéis. Comme quand elle descend des marches, je lui tendis la main. Elle la prit, la serra avec force, mais la lâcha tout de suite dès qu'elle eut posé un pied à terre. Je me recouchai au milieu des draps, entre nos deux plages chaudes. Je baissai les manches de ma chemise parce que j'ai froid quand mes bras sont nus. La nuque appuyée contre un oreiller, je la vis s'habiller. Elle ne parla pas, même lorsqu'elle chercha pendant une minute un de ses bas, même quand elle fit tomber sa robe. Elle passait d'une pièce à l'autre, sans hésiter, laissant les portes ouvertes lorsqu'elle revenait. Quand elle fut prête, elle se rendit au salon. Je ne l'entendis plus.
C'était « Armand » d'Emmanuel Bove. Texte dit par Olivier Broche, 8e épisode. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Équipe de réalisation, Pierre Henry, Cécile Lafont, Bernard Laniel, Claire Levasseur, Étienne Vallès. « Armand » d'Emmanuel Bove est publié aux éditions Flammarion.